Nous avons eu pour la plupart d'entre nous la chance de pouvoir assister à cette retraite de l'Ascension. Et on a bien pensé à vous, en esprit, qui n'étiez pas là. On a partagé des moments très forts, on a eu des enseignements extrêmement puissants sur justement le fait de ne pas avoir peur. Et c'était quelque chose qu'on peut vivre sur un temps limité, ce confort d'être ensemble dans une même pensée. Ça a duré 2 jours et demi. Nous le vivons aussi parfois le dimanche matin pendant 2 heures. Mais si notre vie spirituelle ne se résume qu'à cela, eh bien il y a peut-être 95% de notre vie que nous ratons. Et la vie que Dieu nous invite à vivre, cette vie en abondance, elle est pour tous les jours. Vous savez que le mot « église » a un sens qui peut paraître être un pléonasme, puisque le mot « église » signifie « assemblée », mais si vous décortiquez encore plus en grec, ça veut dire aussi « sortir d'eux pour aller vers ». Et les moments qu'on passe ensemble sont des moments très confortables, n'est-ce pas? On pense tous la même chose, nous croyons en un même Dieu, nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes dans le confort et c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé l'Église et il veut ça. Mais il veut aussi que nous puissions sortir de ce confort. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il aime quand nous prenons des risques pour lui. Il aime quand nous nous mettons en danger pour lui. En danger social, en danger psychique, en danger politique, en danger physique. Et c'est le sujet de ce matin. Nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour nous rassembler en Église, mais aussi pour être témoins de ce que le Christ a fait pour nous. Alors, juste avant de prendre le passage, vous pouvez le prendre dans vos Bibles ou sur les petits papiers qui ont été préparés, qui se situent dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Je voudrais, par avance et d'un cœur vraiment sincère, m'excuser auprès de ceux qui étaient là à la retraite, parce qu'il y a forcément un décalage dans la qualité de ce qui va être dit, mais Dieu nous encourage même, et il encourage même les adultes à boire de temps en temps un grand verre de lait. Vous savez à quoi je fais allusion. Premier épître de Pierre au chapitre 2, les versets 5 et 9. Vous pouvez aussi lire dans vos Bibles ce qu'il y a entre les deux. Il reprend des passages de l'Ancien Testament, mais nous allons vraiment nous focaliser sur ces deux versets. « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dieu est pour tout le monde. Il est le Dieu de toutes les nations. Et il est pour tout individu, pour chaque être humain. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, puis des chrétiens. Il aime aussi les Arabes, les Juifs, les Français. Et il aime autant les Africains, les Asiatiques et les Européens. Il nous aime tous. Et il est pour nous tous. Comment pouvons-nous savoir que Dieu nous aime et qu'il est pour nous? Bien sûr, vous le savez. Nous l'avons revu ce matin encore en première partie. Il l'a démontré par excellence. Bien sûr, il l'a montré en Jésus-Christ. Lui qui, en forme d'homme, avait toute la plénitude de Dieu en lui. Jésus est l'amour de Dieu incarné. Il est l'amour de Dieu incarné dans la forme d'un être humain. Mais Jésus lui-même n'est plus sur la terre en tant qu'être humain. La dernière phrase que je viens de dire est partiellement fausse. Il a choisi ceux qui croient en lui pour montrer son amour au monde. Les croyants sont non seulement ses représentants sur terre, mais aussi ses sacrificateurs, ses prêtres. Nous sommes Christ lui-même. Nous sommes Christ pour ce monde. Et nous avons l'habitude de dire, de façon très triviale et presque en s'en détachant, que nous sommes probablement le seul Jésus-Christ que nos amis connaissent. Et on se contente de cette représentation, de ce schéma spirituel, sans pour autant le mettre en application. Nous sommes le seul moyen par lequel Christ peut se manifester lui-même dans notre monde. Quelle marque de confiance! Quelle marque de confiance il a eue auprès de ses disciples, de ses apôtres, en les laissant et en disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples !» Et cette parole est pour nous aussi. Aussi faibles nous sentons-nous, aussi pécheurs nous sentons-nous, il a choisi l'être humain pour le représenter et pour qu'il vive en nous, nous qui l'avons accepté. Alors le monde, on peut dire que soit ils verront l'amour de Dieu par Christ qui habite en nous, soit ils ne le verront pas du tout. Des siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu s'est choisi une nation, vous le savez, une nation particulière pour montrer son amour au monde. Et peut-être vous vous dites, oula non, j'avais pas cette notion-là, il me semblait bien que Dieu se manifeste à Israël et puis point barre. C'est pas vrai. Il a conclu une alliance, un accord avec eux. Vous pouvez le prendre en Exode chapitre 19, c'est les versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, » il parle à Israël, « vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. » Et si on s'arrêtait là, effectivement, on pourrait se dire « Ok, c'est uniquement au peuple d'Israël que Dieu s'adresse. » Mais la suite du verset nous dit ceci. « Vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour elle un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ça nous rappelle vaguement un passage que nous avons lu il y a quelques minutes. Quand Dieu appela Israël, il l'appela avec, dans sa vision, le salut du monde. Il est le Dieu de toutes les nations et il appela Israël à être un royaume qui proclame cela, un royaume de sacrificateurs pour ces nations-là. Son intention était de se servir d'eux, de se servir d'Israël pour montrer son amour envers l'humanité. Il pensait à toute la création à cause de sa promesse, souvenez-vous, à Adam et Ève, que le Rédempteur viendrait délivrer l'homme. Ce Rédempteur n'allait pas venir uniquement pour le peuple juif, il allait venir pour toutes les nations. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ? Il l'a choisi parce qu'ils étaient descendants d'un homme qui avait foi en Dieu. Je veux bien sûr parler d'Abraham. Et que Dieu lui avait promis qu'en lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Toutes les familles de la terre. Les Israélites allaient devenir les prêtres de Dieu, les sacrificateurs de Dieu, les pasteurs de Dieu, pour montrer son amour, non pas au sein même de ce peuple, mais à toutes les nations, parmi toutes les familles. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Israël se targua de sa propre justice. Nous sommes le peuple de Dieu, et ils avaient raison. Mais il s'arrêtait là. Nous sommes les élus et ces autres nations ne sont que des païens méprisables. Nous sommes les privilégiés, la nation sainte. Ils oublièrent le reste du monde. Non seulement ils ne sont pas devenus des prêtres et des sacrificateurs pour le reste des nations, mais pire encore, ils en arrivèrent au point où ils eurent eux-mêmes besoin de sacrificateurs et de prêtres. Ils avaient été choisis pour être les prêtres entre Dieu et les autres nations, mais ils oublièrent leur rôle à tel point que Dieu dut leur donner leur propre prêtre. Je veux bien sûr parler des Lévites. Ces Lévites qui confessaient les péchés du peuple et qui offraient pour eux les sacrifices. Et le reste du monde dans tout cela ? Eh bien, l'attitude des Juifs fut qu'ils meurent. Pourquoi les Juifs avaient cette telle attitude ? Quel peuple ingrat, n'est-ce pas ? Pour les Juifs, les autres nations étaient méprisables, alors le travail de prêtre, le travail d'intercession envers les autres nations et envers toutes les familles de la terre ne se fit pas. Ils ne manifestèrent pas l'amour de Dieu pour les autres nations. 1 Pierre, chapitre 2. Les mêmes paroles prononcées au mont Sinaï. Les mêmes paroles prononcées à l'égard d'Israël, le peuple élu, ont aussi été dites à nous qui croyons en Jésus-Christ. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation de prêtres, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous pouvons accuser Israël, mais nous avons la même responsabilité. En Actes chapitre 13, nous voyons en action de tels sacrificateurs ou de tels prêtres. Ces deux noms sont équivalents. Dans l'église à Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, des enseignants, et parmi eux, il y avait Paul et Barnabas. La Bible nous dit « Ils célébraient le culte du Seigneur, ils remplissaient leur fonction de prêtre. » Alors, que disaient-ils ? Que faisaient-ils ? La Bible ne le précise pas. Littéralement, le grec dit qu'ils offraient une liturgie au Seigneur. Et ce mot-là a été un peu galvaudé. On a l'impression, quand on dit liturgie, qu'il s'agit d'un ensemble de règles à respecter pour le bon déroulement d'une cérémonie religieuse. Mais le terme liturgie veut dire, à l'origine, rendre service. Rendre service. Et rendre service à quelqu'un, c'est répondre aux besoins de cette personne. Or, Paul et Barnabas répondaient aux besoins de Dieu. Comment offraient-ils ce service à Dieu ? C'est un peu difficile de l'imaginer parce que pendant des années, et encore maintenant, on nous enseigne comment rendre service aux autres. C'est une bonne chose. Mais comment servir et répondre aux besoins de Dieu ? Le contexte de Actes chapitre 13 nous le dit. L'Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et l'Église à Antioche les laisse partir. En d'autres termes, ils avaient demandé au Seigneur « Seigneur, qu'en est-il du reste du monde ?» Imaginez-vous avoir Barnabas et Saul comme prédicateurs. On ne voudrait pas les lâcher. L'Église à Antioche a accepté de répondre aux besoins des autres nations. J'admire l'esprit de cette Église à Antioche. Moi, je vous avoue que j'aurais râlé. Ils ne se sont pas plaints quand le Seigneur leur enleva leur pasteur. Ils ne dirent pas « Non, non, nous on veut garder notre pasteur, il est bien ici. Nous allons voter d'ailleurs pour le garder. » Ainsi, l'Église à Antioche a servi Dieu en disant « Seigneur, qu'en est-il du reste du monde ?» Et ces pasteurs, Paul et Barnabas, ont été envoyés, vous le savez, en Séleucie, et de là à Chypre, et c'est le début des voyages missionnaires. C'est le premier voyage missionnaire. Et ce faisant, ils ont rempli leur fonction de prêtres envoyés aux nations, de peuple saint, de race élue. Sommes-nous appelés à aller dans des pays étrangers pour prêcher la bonne nouvelle, peut-être ? Sommes-nous appelés à rester dans notre Église pour y servir? Sûrement. Mais qu'en est-il du reste de notre monde, de nos amis, de nos collègues et de nos familles? Sommes-nous des prêtres pour eux? J'utilise depuis le début de ce que je veux vous partager ce matin le mot prêtre, qui peut parfois être considéré comme un gros mot, tellement il est connoté. Il évoque pour nous un homme vêtu de longues robes noires officiant pour un culte catholique. Mais ce n'est pas ça du tout. Un prêtre, c'est quelqu'un qui se place entre Dieu et les hommes. Il remplit la fonction d'intercesseur. Cela veut dire qu'il se tient entre les deux parties. Il désire faire avancer le royaume de Dieu, mais il aime profondément sa création. Il veut promouvoir les affaires de Dieu, les voies de Dieu, les désirs de Dieu, pour le bien de son prochain. C'est aussi quelqu'un qui se préoccupe des affaires des hommes dans la présence de Dieu. Ainsi donc, un prêtre, c'est un ami. C'est un ami de Dieu, c'est un ami des hommes. Il sert l'homme en faveur de Dieu et il sert Dieu en faveur de l'homme. Et vous savez à quel point c'est difficile d'être dans cette position. Il n'est pas facile d'être l'ami de l'homme et l'ami de Dieu en même temps. C'est un peu comme se retrouver au milieu d'une route à double sens, sans terre-plein central, sur la ligne blanche. On peut être percuté des deux côtés. Et c'est là le danger, c'est là le risque qu'il faut prendre. C'est là l'essence même de la fonction sacerdotale, la fonction de prêtre, être l'ami des deux parties en présence, sans compromission, mais avec douceur. Si vous n'êtes pas l'ami des deux côtés, ayant accès aux deux, vous ne pouvez être un prêtre. Qu'implique la fonction de prêtre, de ministre, d'intercesseur? Un prêtre est celui qui répond aux besoins des hommes. Quand quelqu'un a besoin d'espérance, de pardon ou de conseil, alors le Seigneur se sert de vous, de ses prêtres, pour répondre à ses besoins selon leur vocation particulière à chacun. Mais nous l'avons vu, nous devons aussi servir Dieu. Dieu a-t-il des besoins? Croyez-moi, Dieu a de grands besoins, et la parole nous le dit. Il a grandement besoin de notre service, c'est lui qui nous envoie. Et c'est pour cela qu'il fait de nous une nation de prêtres. Je vais prendre encore un passage qui se situe encore dans l'Ancien Testament. Voyez à quel point Dieu a de la suite dans les idées. Ça se situe en Ézéchiel au chapitre 22. Et on ne va pas relire tout ce chapitre-là, on va prendre simplement à partir du verset 29, mais je voudrais vous rappeler le contexte. C'est pas joli joli, si vous lisez le livre d'Ézéchiel. La situation d'Israël n'est pas joli joli. Le chapitre tout entier décrit la terrible condition sociale, politique et spirituelle du peuple d'Israël à cette époque-là. Et on en a un résumé au verset 29. Écoutez. « Le peuple du pays se livre à l'oppression. Il commet des vols. Il exploite le malheureux et le pauvre. Il opprime l'immigrant contre toute justice. » Comme c'est actuel, n'est-ce pas? Quelle fut l'attitude de Dieu à l'égard de ce tragique état des choses? Verset 30. Je cherche malgré tout parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Je cherche un homme parmi eux. Un homme qui les protège, qui se tienne sur la brèche, mais je n'en trouve pas. Et parce qu'il n'en trouva pas, il dut les punir. Il dut les punir en tant que nation et les livrer entre les mains d'un ennemi pour mettre fin à toute la souffrance qu'ils étaient en train d'attirer sur eux-mêmes. Dieu était tout retourné de la manière dont il traitait les pauvres, les immigrants, les personnes âgées, les sans défense. Mais Dieu ne désirait pas les détruire à cause de leurs péchés. Il cherchait, ne fût-ce qu'une seule personne, qui se tienne dans la brèche, sur la ligne blanche, sur cette route à double sens, pour intercéder en faveur de la nation, mais il n'en trouva pas. S'il avait trouvé une seule personne avec un cœur comme cela, Dieu ne les aurait pas punis. Mais à l'époque, il n'y avait pas un seul prêtre, pas un seul dans tout le pays. Vous comprenez bien, je ne reviens pas à chaque fois sur ce que nous vivons, mais c'est exactement la même chose que nous vivons. Faites le parallélisme à chaque fois. Je le dis souvent et je le répète, une des causes, un des problèmes majeurs que nous avons dans nos églises, c'est que nous ne croyons pas en un Dieu personnel. Nous croyons en un Dieu protocolaire, présent, et on a de la chance, entre 10h30 et midi, profitez-en, il n'en reste plus après. Voilà ce que nous pensons. Nous pensons qu'il faut venir avec de grandes prières, de grands services. Dieu est un ami. Dieu cherche notre amour. Et Dieu cherche des intercesseurs. Et l'intercesseur ne peut être qu'intellectuel ou doctrinal. C'est un homme, c'est une femme de terrain. Donc le problème, c'est que nous ne croyons pas en un Dieu personnel. Au lieu de cela, il nous apparaît comme un ensemble de règles, de doctrines. Si nous ne conformons pas aux règles, eh bien, nous ne nous sentons pas en sécurité. Certes, il y a un cadre. La parole de Dieu nous donne les règles du jeu. Mais cet espace est très grand. Cet espace de liberté où nous sommes libres d'évoluer est très grand. Notre Dieu est une personne. Il nous a créés à son image. Il connaît sentiments et émotions. Il est une personne qui se réjouit et qui se met en colère. Il rit. Il pleure. Il est quelqu'un avec qui on peut parler, à qui on peut expliquer des choses. Dieu n'est pas un livre de code. Dieu n'est pas un règlement intérieur. Il cherche des amis. Il cherche à nous aimer. Un chrétien indien disait qu'avant de se convertir au christianisme, il avait été quelqu'un de très religieux. Il avait adoré dans tous les temples possibles et inimaginables. Et ceux qui ont voyagé dans ces pays-là savent de quoi je parle. Il y a un temple tous les 100 mètres, quasiment. Mais un seul mot le convertit au christianisme. Et ce mot, c'était l'accès. Jamais il ne trouva accès auprès de ces innombrables dieux. L'idée clé du Nouveau Testament, c'est que nous avons accès par Jésus-Christ. Un accès direct, pas un accès théorique, pas un accès avec un médiateur où il faut une cérémonie pour y avoir accès. Dieu est en libre accès, il se laisse trouver. Mais nous sommes trop conscients du concept de Dieu qui prédomine faussement dans l'Ancien Testament. Nous venons en ta présence, disons-nous, mais Dieu est lassé de ça. Il veut des amis qu'il appelle papa. Je crois que Dieu veut avoir de la communion avec nous quand nous sommes fatigués, quand nous rentrons chez nous le soir, quand nous sommes en pantoufles. Mais nous sommes trop sophistiqués. Nous nous encombrons de tout ce protocole. Dieu est une personne qui invite à l'amitié. Il veut s'asseoir à côté de vous et dire « Mon fils, ma fille, je t'aime. » Il veut que vous lui disiez que vous l'aimez aussi. Sérieusement. Est-ce que vous dites à Dieu que vous l'aimez ? Il a envoyé Jésus sur la terre précisément pour cette raison, nous ouvrir l'accès, pour que nous puissions tous devenir ses amis. À vrai dire, certains des amis les plus proches de Dieu n'étaient pas exactement des saints. Ok, on pense à plein de héros dans la Bible. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez ce qu'il a fait dans sa vie. Abraham était l'ami de Dieu et pourtant, il n'était pas parfait. Son père était un fabricant d'idoles. Ce qui fit qu'Abraham grandit au milieu du culte des idoles. Il n'était pas si bon avant que Dieu ne l'appelle. Mais Dieu en fit son ami par grâce et décida de bénir le reste de l'humanité à travers lui. Ce n'était pas parce qu'Abraham était quelqu'un de spécial, mais parce que Dieu avait besoin de lui en tant qu'ami. Tu vas devenir pour moi un ami précieux et par toi naîtra toute une nation qui deviendra mes amis. Bien que je sois le Dieu de toutes les nations, je t'ai choisi pour que tu sois proche de moi et pour bénir le reste de l'humanité. Il nous le dit à nous. Bien que je sois le Dieu de toute nation, je t'ai choisi pour que tu sois proche de moi et pour bénir le reste de l'humanité en commençant par ceux que tu côtoies. C'est là le véritable but de notre amitié avec Dieu. Ce n'est pas pour satisfaire notre orgueil, pour dire que nous sommes mieux que tout le monde, parce que nous connaissions Dieu. Une fois Dieu alla de bon matin à la tente, vous vous souvenez, Genèse chapitre 18, la tente d'Abraham, il passa toute la journée avec lui. Vous pouvez relire cette histoire en Genèse chapitre 18. Ils discutèrent, tandis que Sarah préparait du pain, peut-être du yaourt, et d'autres bonnes choses, et qu'Abraham lui donnait un coup de main. Dieu aime ces moments de partage. Et avant de partir, il donna à Abraham l'extraordinaire nouvelle de la prochaine naissance d'Isaac. Imaginez ce qu'a pu vivre Abraham pendant toute cette journée auprès de Dieu. Impossible d'imaginer ça. Impossible même que Dieu passe toute la journée avec moi, n'est-ce pas ? Ce sont les vieilles pensées protocolaires que nous avons. Nous, nous donnons 5 minutes pour une activité, puis 5 minutes pour une autre, et on passe à autre chose. Mais Dieu, lui, passe toute la journée avec nous. Il passe la journée chez son ami simplement pour nous donner la bonne nouvelle de notre salut. Dieu s'intéresse à nous. Dieu nous aime. En Genèse chapitre 18, à un moment, Dieu dit, bien, il faut que je m'en aille. Et il dit, je vais détruire les villes voisines de Sodome, de Gomorrhe, parce que leurs péchés atteignent jusqu'au ciel. Or, ces gens, ce sont les voisins d'Abraham. La ville de Sodome et de Gomorrhe, ce sont les proches d'Abraham. Dieu dit, il faudrait quand même que je le lui dise, parce que quel genre d'ami est-ce que je suis si je ne communique pas de façon pleine et entière, sans secret ? Allez, je crois que je vais lui en parler. Alors il dit, Abraham, viens. Oui, mon Seigneur, me voici. Tu es mon ami et j'ai quelque chose dont je voudrais te faire part. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi, Seigneur ? Parce que leur iniquité a touché le ciel et que nous en avons plus qu'assez. Ils sont en train de s'attirer une telle misère sur eux-mêmes, mais nous n'avons pas d'autre choix que celui de les détruire. Attends un peu, dit Abraham. Ça, c'est un côté de toi que je ne connaissais pas. Tu dis que tu vas détruire ces villes ? Oui, à cause de leur iniquité. Y a-t-il vraiment personne de juste qui habite dans ces villes? Seraient-ils tous tordus à ce point? Vas-tu détruire les justes avec les injustes? J'ai de la peine à croire cela de la part d'un de mes amis. Eh bien non. Je ne veux pas détruire les justes. Alors, s'il y a 50 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. C'est bien, mais supposons qu'il y en ait 45, Seigneur. Vas-tu quand même la détruire? Bien sûr que non, pour qui me prends-tu? Et supposons qu'il n'y en ait que 40, 30, 20, et s'il n'y en avait que 10, Seigneur? Non, je ne détruirai pas si j'en trouve 10. Ah, Seigneur, tu me rassures, voilà qui est mieux. Là, je te retrouve. Je savais qu'au fond, tu étais comme ça. Tu es vraiment un chic type. Merci, Abraham, mais c'est moi qui t'apprécie parce que tu m'as rappelé ça. Nous avions l'intention de tout éliminer, tellement nous étions bouleversés. Vous connaissez la suite, probablement, de cette histoire. Il n'y en a pas eu 10. Le seul juste fut Lot. Ainsi, quand Dieu arriva à la ville, il se rappela la sollicitude d'Abraham et fit sortir Lot et sa famille. Il fit cela à cause d'Abraham, à cause de son amitié avec Abraham. Quelle puissance! Nous pouvons vivre la même chose. Il faut y croire. Il faut avoir confiance que Dieu a cette relation avec nous, mais le seul frein, c'est que nous n'y croyons pas vraiment. J'ai pris l'exemple de David, d'Abraham, il y en a plein d'autres, dans la Bible ou hors de la Bible. Dieu aime avoir des amis qui lui rappellent sa nature, qui se tiennent sur la brèche entre lui et l'homme. Et c'est cela, être un prêtre. Il est d'une grande importance que nous comprenions cela. Être l'ami de Dieu, intercéder en faveur de Dieu pour les hommes. Alors, est-ce que vous avez endossé vos habits de prêtre, même si le proverbe dit « l'habit ne fait pas le moine » Portez-vous dans votre cœur ce désir d'intercéder pour Dieu en faveur de vos amis? Je le souhaite. Et je souhaite que Dieu trouve dans cette assemblée locale, non pas un homme, non pas une femme, mais tout un corps qui se tienne sur la brèche. Prions. Seigneur, nos manques de foi nous amènent à limiter le grand amour que tu as pour nous, à limiter, Seigneur, cette accessibilité que tu nous donnes. Ce manque de foi, ce manque de compréhension de ta personne fait que dans nos esprits, tu es un Dieu loin, qui ne nous comprend pas. Et je suis sûr, Seigneur, que ça t'attriste, parce que tu es loin d'être celui-là. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses vivre en nous. Et cela, Seigneur, dépend de notre foi en toi, de la confiance que nous laissons à ta disposition. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela et à pouvoir être sur la brèche, à pouvoir intercéder pour nos amis. Car c'est toi qui nous donnes cette mission-là. Nous voulons aller et faire de toutes les nations, en commençant par ceux qui nous côtoient au plus proche, tes disciples. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.